вашей мантры Исмаил, которую я дал. J'ai repris totalement ce qui
se passe. Moi, j'ai essayé de vous manier au cas qu'on gagne. Je pense qu'on se, en combinant les deux, ben, c'est de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange citoyen dans Parole aux auditeurs. La distribution de manuels dans les établissements scolaires était devenue une pratique totalement inexistante des pays de génération en RDC. En 2008, le gouvernement congolais, avec l'appui de certains partenaires de l'éducation, a initié un projet national de distribution de manuels dans le cadre du projet PAS. Plus de 14 millions de manuels scolaires devraient être livrés aux 30 provinces éducationnelles que compte la RDC pour favoriser l'égalité des chances à tous les enfants en âge scolaire. À ce jour, certains observateurs continuent à décrier la carence des manuels scolaires dans plusieurs établissements qui serait due notamment, selon eux, au manque de financement des secteurs de production des manuels scolaires locaux. Qu'en pensez-vous? 081-890-5340, le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines mis en onde par Héritier Sidiakala, Julie Cézabongonda et au standard. J.R. Longembo réalise et coordonne cette émission. Et Pierrot et la Mégie à L'Oriel, plaisir de vous présenter sous la supervision de Martin Sebujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocafé.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
La problématique de manuels scolaires à travers le pays au centre de notre échange après le lancement de ces projets, les projets initiés par le gouvernement de la République avec ses partenaires. 14 millions de manuels devraient être disponibilisés à travers le pays, mais plusieurs observateurs estiment que la situation qui connaît la production des manuels scolaires aujourd'hui dans notre pays est due notamment au manque de financement de ce secteur. C'est pourquoi nous avons associé à cet échange monsieur Alex Ibongi, préfet des études et président des écrivains des manuels scolaires du Congo. Monsieur Ibongi, bonjour et bienvenue dans au studio de Radio Capi.
Bonjour, monsieur les journalistes.
Dites-nous, comment se présente aujourd'hui la production de manuels scolaires dans notre pays?
Dans notre pays, le gouvernement avait bien commencé avec la distribution des manuels scolaires. Mais à un moment donné, et ça n'a pas atteint toutes les couches de la population scolaire. Il se fait qu'il y a des écoles qui n'ont pas de manuels jusqu'à aujourd'hui. D'autres ont eu une quantité insuffisante. Et en plus de ça, quand les manuels sont arrivés dans des écoles, au primaire, c'était gratuit. Mais au secondaire, on déboursait 1 999 $ par école
pour avoir ce manuel.
Pour avoir les manuels. Malheureusement, aussi la situation, il y a d'autres préfets qui ont payé, d'autres aussi n'ont pas payé, et ça n'a pas fait avancer l'opération.
Et là, c'est en ce qui concerne les manuels que le gouvernement espérait distribuer. Est-ce qu'aujourd'hui, encore en RDC, nous avons des manuels scolaires qui sont produits localement?
Mon cher ami, je vous dis que le Congo, c'est un pays béni. Nous avons notre association des écrivains des manuels scolaires du Congo, où nous retrouvons tout le monde. Les livres tels que Maîtriser les maths, l'histoire, l'anglais, puisque dans les temps, nous étudions avec les English for Africa. Après English for Africa, on a pris Go for English, qui était vraiment inadapté à nos réalités d'ici. Mais vous trouverez aujourd'hui, il y a des Congolais qui ont écrit les manuels. Mm-hmm. Les manuels d'histoire, c'est disponible. Les manuels de géographie, mathématiques, c'est écrit localement. Malheureusement, le financement ne vient pas. Les écrivains se débrouillent seuls. Vous allez à la direction du programme, vous devez supporter ceux qui lisent vos manuels là. Ça va entre 200 et 400 dollars. Vous arrivez chez l'imprimeur vous donne 10% de la production. Et pourtant, c'est vous qui avez consacré plus de 2 ou 3 ans pour écrire ces manuels scolaires.
Mais est-ce que dans la production, est-ce que les écrivains travaillent avec le gouvernement pour que le gouvernement puisse les appuyer et que ces manuels soient mis dans les circuits, dans le programme officiel, ou bien sur des manuels que chacun peut écrire, un manuel de cours, mais est-ce que ces manuels sont reconnus par le gouvernement qui les intègre dans les circuits officiels de l'enseignement?
Oui, bon, vous avez ici, avant que les manuels ne soient utilisés dans les écoles, on vous donne l'agrément de votre manuel par le secrétaire général. Et ce manuel est utilisé. Malheureusement, après l'agrément, rien ne suit. Donc, vous êtes censé vous débrouiller seul pour aller chercher les imprimeurs qui peuvent vous aider à tirer votre livre. Pour le moment, moi, par exemple, qui vous parle, j'ai écrit dans le domaine de l'anglais. Vous trouverez que d'après le English for Africa, où on nous parlait d'Ebola in Nigeria, on nous parlait d'Ebola in Ghana, et pourtant, ici, nous avons écrit les livres d'anglais. Mm-hmm. Personnellement, j'ai écrit d'abord Selected Business Texts and English Correspondence for Commercial Stream. Dans la section technique commerciale, informatique ou commerciale, on a le cours de correspondance commerciale anglaise. Dans ces cours-là, vous trouverez que les enfants n'ont pas les textes adaptés à leur filière. Dans le temps, on étudiait les textes à caractère littéraire, historique. Or, le programme national nous recommande d'avoir les textes d'affaires, les textes sur les assurances, l'import, export. Il n'y avait pas un seul livre.
En anglais, bien sûr.
En anglais, oui, il n'y en avait pas. Et nous avons écrit ce livre-là qui se trouverait déjà agréé et ça se trouve dans les éditions. Malheureusement, le gouvernement n'a pas fait la promotion du livre et les livres stagnent. Vous prenez encore le cas de la première et deuxième année secondaire. Le programme national n'a rien prévu, n'avait pas prévu qu'on ait les cours-là en première et deuxième. Les cours d'anglais devaient commencer en troisième. Voyez-vous, une maison sans fondation, je ne sais pas où elle va aboutir. C'est pourquoi vous remarquerez qu'aujourd'hui, au sortir des humanités, aucun élève ne parle anglais. Sur ça, vous trouverez peut-être un élève qui peut bien se débrouiller en anglais. Et nous, comme experts en la matière sur terrain, nous avons encore écrit un autre livre, English Book for Teens, First and Second Force Peoples of the Secondary School. Ce livre-là prépare les élèves pour que, quand ils arriveront en troisième année, ils n'auront pas de difficultés pour lire les textes qu'on a.
Mais quand on regarde aujourd'hui l'immensité du pays, le besoin, 30 provinces éducationnelles, et les livres qui sont écrits par les écrivains des manuels scolaires, quelle est la moyenne de tirage aujourd'hui qui peut vraiment répondre aux besoins réels qui se posent au pays aujourd'hui en manuel scolaire?
Normalement, si on pouvait tirer, ce sont les chiffres des experts de programme, au moins 3 millions d'exemplaires pour couvrir tous les pays. Malheureusement, quand vous allez chez les primaires, ils vous disent non, on imprime seulement 1000, 2000, 3000, et ça ne couvre que la ville de Kinshasa. Vous allez à l'intérieur, il n'y en a pas. Mon livre ici, il y a des gens qui m'appellent du Sangui. Les gens m'appellent de Kasumbalesa, m'appellent du Bas-Congo, pour avoir les livres ici. Mais les moyens.
C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, c'est une grande préoccupation, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau de ses partenaires, pour pouvoir doter des écoles, des manuels, permettre aux enfants de pouvoir étudier, surtout avec des manuels qui sont adaptés aujourd'hui. Une dernière question avant d'écouter les auditeurs. Que ce soit les manuels qui sont, par exemple, écrits, imprimés en Belgique, qu'on peut distribuer, les manuels écrits localement, est-ce qu'il y a un travail d'adaptation pour que les manuels répondent aux véritables besoins de nos écoles aujourd'hui, que ce soit la mathématique, le français, la géographie, parce que des fois, il y a des manuels, quand vous le regardez, vous allez à l'intérieur, vous sentez que même l'expression utilisée, c'est pas pour un enfant congolais. Est-ce que ce travail-là s'est fait aussi pour que les manuels soient adaptés vraiment aux besoins réels de l'élève congolais?
C'est pourquoi nous remercions son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire et Initiation à la nouvelle citoyenneté, qui nous a déjà donné l'agrément, sentant déjà les besoins que les livres écrits localement coûteraient moins cher et les livres importés, voyez, avec les coûts que cela comporte, ça coûte très cher. Et quand vous arrivez dans des écoles, qu'on fasse l'enquête, les livres ne sont pas utilisés. Les directeurs disent les livres ne sont pas adaptés aux réalités socioculturelles de notre pays.
Voilà, faudrait-il aujourd'hui essayer une grande réflexion. Félicien, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans cette émission.
Bonjour Pierrot, et bonjour à l'invité, et bonjour aussi à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Mais quand même, c'est que l'invité pose comme problème, c'est réel. Il y a d'abord le besoin en manuel, les livres écrits localement, la difficulté de pouvoir même les imprimer, les distribuer, ça c'est un fait. Les livres qui sont écrits en dehors du pays, leur adaptation aux besoins réels de nos écoles, voilà toutes ces questions qui se posent dans l'accompagnement de l'enseignement avec des livres pour vous. Comment on peut arriver à s'en sortir, Félicien?
Oui, mais quand vous entendez ce que l'invité est en train de dire, il y a lieu de dire qu'il y a un problème dans ce pays, et surtout au niveau de ceux qui nous gouvernent. Mais je ne peux pas comprendre. Depuis l'époque coloniale, jusqu'aux années 75, même jusqu'aux années 80, je ne pense pas que ce problème se pose de cette façon-là. Parce que nous avons étudié dans l'arrière-pays, dans des coins les plus reculés, mais les manuels nous arrivaient là-bas et nous ne déboursions même pas un seul rond pour en avoir. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans l'entretemps pour que nous soyons dans cette situation, au moment où, à l'époque, on importait tout, mais aujourd'hui, il y a des écrivains locaux qui sont en train de produire des livres. Et pourquoi ils ne sont pas soutenus? Et pourquoi le budget de l'enseignement ne peut pas supporter cela? Et comment est-ce qu'on peut arriver à avoir un enseignement de qualité quand il n'y a pas le matériel didactique? C'est pas possible. Et nous avons ici une culture des diplômes. Tout le monde veut avoir le diplôme. Même quand on n'a pas la formation, on veut avoir le diplôme. Mais le diplôme, quelqu'un qui a un diplôme, mais qui n'a pas la matière, qui n'a pas la connaissance, mais il a le diplôme. Mais ce diplôme-là représente quoi? Et ça devient un culte de diplôme. Et même ceux qui sont déjà aux affaires, qui sont des grands responsables, qui cherchent à les corrompre, même à les intimider des professeurs pour avoir nécessairement d'autres diplômes, avoir les doctorats qui n'ont pas défendu normalement et tout ça. Et cet esprit-là qui nous anime maintenant, c'est pour faire quoi avec? Moi, je pense que le budget de l'État devait couvrir les besoins de l'enseignement. Et les livres produits localement ne pouvaient pas coûter les yeux de la tête. Et quand hier, tout ce qui était importé arrivait dans tous les coins, et qu'aujourd'hui, il y a une multitude de gens qui produisent des livres sur place, il y a des imprimeries, et même il y avait une imprimerie de l'État. Je ne sais pas si ça existe encore, la Renapi ou quoi, je ne sais pas. Mais c'est un problème d'organisation, c'est un problème de volonté politique. Donc, chez nous, nous sommes là en train de faire, des mativismes, excusez-moi, pour seulement qu'on voit qu'on fonctionne, on travaille, mais il n'y a personne qui a la volonté de faire quelque chose de durable, quelque chose de bien pour l'intérêt de ce pays. Sinon, on ne pouvait pas en être là, c'est dans 6 ans après. On nous a dit améliorer ce qu'on nous a laissé et non pas être en train de dégringoler.
Et le problème que vous posez, il est réel, Félicien. Vous estimez qu'ici, aujourd'hui, on a un budget au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et l'administration de la citoyenneté. Si on a un budget conséquent, on peut consacrer l'argent au programme de production des manuels scolaires, soutenir les écrivains locaux. Et là, ça doit être accompagné par la volonté politique et l'organisation. On sait quand même qu'il y a eu beaucoup de difficultés dans le secteur de l'enseignement avec le programme structurel, on s'y rappellera très bien. Félicien qui a fait que l'enseignement était presque à l'abandon. Il y a eu quand même des efforts qui ont été fournis, mais quand même il y a des manuels, comme on le dit, qui viennent de l'extérieur. Mais avoir des manuels, c'est mieux, comme on peut les importer, mais aussi les adapter à la réalité de l'enseignement local. Félicien, je crois que c'est un autre débat. Félicien, dommage que Félicien n'a pas pu suivre la question de relance. Florent, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Florent.
Bonjour, Gérard. Bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio.
Et à Lubumbashi, aujourd'hui, quel est le constat? Pensez-vous qu'il y a quand même des écoles qui ont des manuels scolaires? Est-ce qu'il y a des problèmes très sérieux qui se posent? Et comment, des fois, ces questions sont résolues sur place, là où vous êtes, Florent?
D'abord à saluer l'invité et aussi à pouvoir peut-être manifester mon inquiétude. Mon inquiétude aujourd'hui, j'ai entendu l'invité qui est en train de parler de la production, disons, des imprimeries, des livres qui se faisaient à l'extérieur du pays. Aussi une quantité bien sûr insuffisante de livres qui n'a pas pu de toutes les façons combler les vides qu'il y avait dans l'enseignement aujourd'hui. Mais le peu de livres qui ont été produits par notre gouvernement, en principe, devaient être bénéficiés par les écoles, bien sûr, qui étaient programmées à pouvoir en avoir. Mais le problème, c'est lequel? Il y a des livres qui ont été affectés, qui ont été, par exemple, envoyés chez Lubumbashi. Mais vous allez vous rendre compte que ces livres là-bas n'ont pas pu atteindre leur lieu de destination, mais il y a des gens qui sont en train de vendre ces livres là-bas dans des rues. Vous trouvez ces livres là-bas partout, dans des rues, dans des rues. Les autorités même de l'enseignement là-bas sont en train de prendre ces livres au lieu de les mettre à la portée des enfants, mais ils sont en train de vendre ça aux individus sur la rue. Alors, pour ça, moi je ne dis pas bon. Même si l'on produisait beaucoup de livres, ces livres-là ne pourront pas être bénéficiés par les élèves. D'où, même si c'est une petite quantité qui a été produite par notre gouvernement, mais ces livres là-bas devaient quand même être bénéficiés par les enfants du pays. Mais dans le sens où aujourd'hui les livres sont produits et que ces livres là-bas, vous les détournez. Il y a des gens dans l'enseignement là qui sont en train de détourner ces livres là-bas. Donc vous allez vous rendre compte que là, le gouvernement n'a pas des responsabilités là-dessus. D'où, c'est à nous d'abord aussi de prendre conscience et aussi au gouvernement peut-être aussi d'avoir une rigueur sur ce qu'il est en train de fournir comme effort.
Merci beaucoup Florent, vous avez insisté sur la conscience et la rigueur pour vous, c'est par rapport aux livres. S'il y a des livres qui sont produits par le gouvernement avec ses partenaires qui doivent être distribués dans les écoles, autant mieux les distribuer plutôt que retrouver des livres qui sont vendus sur la place publique. Ça c'est pose un problème de schéma, la traçabilité de ce qui est envoyé par le gouvernement vers les provinces. Alors vous estimez que quand bien même on pourrait augmenter les budgets, financer les secteurs de production des livres et des manuels scolaires, dès lors qu'on ne saura pas contrôler le circuit de distribution, on risque d'avoir des manuels qui sont produits pour les écoles, mais qui peuvent se retrouver dans un circuit parallèle. Et là, vous avez insisté sur la conscience, la prise de conscience de chacun, mais aussi la rigueur auprès du pouvoir public dans ces domaines. Merci beaucoup. Madame Josephine, vous êtes à Boston, aux États-Unis d'Amérique. Bonjour. Et merci de nous avoir rejoints dans cet échange. On vous écoute, madame.
Bonjour Radio Okapi et merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Je remercie le préfet qui est sur le plateau. Alors, je vais dire ceci. Ce sujet m'intéresse beaucoup parce qu'on parle de l'éducation, de l'éducation, surtout l'éducation primaire et secondaire. On voit les enfants. On voit les enfants. Notre gouvernement... ils font des choses comme si on était dans un état de droit. Hein? Or, on n'est pas dans un état de droit. Hein? Ils font un semblant pour qu'on distribue. Ils ont eu les livres avec un partenaire de l'éducation, l'appui d'un partenaire de l'éducation. Donc, le préfet a dit qu'il recevait les livres gratuitement. Comme ils ont reçu les livres gratuitement, le préfet vient de confirmer qu'eux, ils doivent payer. Déjà là, ça ne va pas. Le gouvernement a reçu les livres gratuitement. Le gouvernement doit amener les livres dans des écoles gratuitement pour que le préfet puisse les distribuer aussi gratuitement à leur tour. Alors, quand on doit d'abord charger le préfet, et le préfet aussi va charger les enfants. Et les enfants, pour qu'on achète un livre à un enfant, il faut que les parents déboursent l'argent.
Mm-hmm.
En attendant, le gouvernement est en train de crier comment l'enseignement primaire et secondaire, l'enseignement primaire est gratuit. Là, est gratuit plutôt. Alors, moi, je vais dire ceci. L'éducation au Congo n'est pas gratuite. Hein, surtout l'enseignement primaire. Et l'enseignement primaire n'est pas gratuit. L'enfant congolais est pauvre. Pourquoi? Parce que ses parents sont pauvres. Avec l'expérience que j'ai ici, les histoires gratuites ne sont pas... On ne s'intéresse pas. Parce que les Américains disent que quand c'est gratuit, il y a un attrape-nigaud. Donc, comme le préfet a dit, ils produisent les livres localement. Quand le gouvernement est contacté pour qu'on leur donne les livres, pourquoi ils ne refusent pas? Pour s'ils refusaient, alors ils vont aller chez les producteurs des livres, les contacter, les payer, et les livres seront produits directement au Congo et distribués gratuitement. Mais le gouvernement, lui, préfère avoir les livres gratuitement pour le vendre au préfet.
Oui, c'est que le préfet a dit tout à l'heure, c'est que les manuels, le programme avec le programme passe pour la distribution des manuels scolaires, c'était des manuels donnés gratuitement pour les enfants de l'école primaire, mais les secondaires, il y a des écoles qui devaient débourser jusqu'à 1000 dollars pour avoir ces livres-là. C'est dans ce programme, c'est qu'il y a été un problème, que les uns et les autres ne puissent pas arriver vraiment à certaines écoles de pouvoir verser ces 1000 dollars pour avoir des livres. Mais c'est que vous dites oui, on vous écoute, madame, vous avez ajouté.
Vous avez dit hier, au Congo, le Congo c'est un pays rare, si pas le seul, là où il y a des enseignants. Les enfants des enseignants n'étudient pas. Il y a un problème. Le gouvernement doit prendre en charge d'abord la famille, papa et maman. Hein, ils doivent prendre en charge de la famille et puis la famille va prendre en charge des enfants. Ce n'est pas le gouvernement qui va prendre en charge de tous les enfants. Il n'y a pas moyen, il faut qu'il reverse ça.
Voilà,
le gouvernement doit donner le travail aux papa et maman et puis les enfants,
ils feront à mesure de faire face aux besoins, même s'il faudrait acheter un manuel scolaire. Si les parents n'ont pas de moyens, ça sera difficile qu'ils puissent acheter un manuel scolaire. Maître Omar, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour. Alors le souci aujourd'hui, c'est qu'on arrive à définir ensemble des mécanismes plus efficaces avec l'association des écrivains pour qu'on puisse doter nos écoles des manuels scolaires, et surtout des manuels qui sont produits localement. Alors comment on peut y arriver, Maître Omar? Voilà, Maître Omar, vous êtes avec nous. Dommage qu'on a perdu. Maître Omar, qui était ici, avec nous ici à Kinshasa, on pourra peut-être le recontacter. En attendant, Patient, vous êtes à Kisangani. Bonjour, Patient.
Bonjour, Patient,
pourriez-vous arrêter votre poste récepteur, s'il vous plaît, et comme ça, on communique directement à travers le téléphone portable, Patient.
Oui, alors, vous m'écoutez, Radio Capital.
C'est très bien, arrêtez votre radio.
Oui.
Dommage, on ne saura pas continuer comme ça, Patient, parce que là, vous avez laissé, vous écoutez à la radio, ça fait un effet de retard ici au studio. Je rappelle encore que le gouvernement avait initié un projet national de distribution des manuels scolaires. Dans le cadre du projet PASS, 14 millions de manuels devraient être livrés aux 30 provinces éducationnelles dans cette configuration-là. Alors, les débats aujourd'hui, c'est de comment arriver à financer les secteurs de production des manuels localement. Mais là, Patient nous suit un peu difficilement. En attendant, on reste à Kinshasa avec Maître Likonza Trésor. Bonjour, Maître.
Bonjour.
On vous écoute.
Bien, merci. Je félicite le gouvernement pour cette initiative. Nous avions suivi l'information depuis très longtemps. Et nous avions également assisté à la distribution de certains manuels dans certaines provinces.
Mm-hmm.
Et je pense qu'aujourd'hui, comme la situation évolue, on devrait nécessairement continuer à mettre encore à la disposition des écoles d'autres manuels, puisque quand l'enseignant n'a pas de manuels, qui ne saura pas dispenser les cours comme il faut. Et c'est, les manuels constituent comme le constituant en quelque sorte un conducteur pour l'enseignant. Et ces manuels sont des ouvrages didactiques qui permettent aussi à ces enseignants d'adapter leurs cours à l'évolution de la société, d'avoir l'actualité nécessaire et suffisante pour la formation des enfants. Et si il y a la règle de la distribution de ces manuels, on peut déjà observer que l'enseignement connaît un problème, comme on l'a toujours dénoncé, fustigé à travers les pays. Mais permettez-moi d'exprimer mon regret, puisque moi, j'ai fait mes études chez les frères des écoles chrétiennes, mes études primaires. Et quand nous étions à l'école primaire, Liboke Moko, nous sommes en Bandaka, les premières années jusqu'en sixième année, pour chaque salle, il y avait des manuels, des ouvrages appropriés pour peut-être apprendre une récitation. Si vous êtes à 45 dans une salle, on vous distribue 45 livres, à chacun son livre, y compris celui du maître, et on vous apprend. Si c'est un texte où vous allez analyser, on vous distribue d'autres ouvrages, pour la mathématique et consorts, ainsi de suite. Alors, tous ces ouvrages-là, tous ces manuels, étaient mis à la disposition de l'école par le gouvernement. Et je me souviens même à une époque qu'il y avait une distribution des manuels, des cahiers, des stylos sur lesquels on a mentionné, dont de la Belgique. Et donc, le gouvernement a plusieurs partenaires qui peuvent jouer ce rôle-là, qui peuvent l'aider, à aider aussi les élèves à bien étudier. Dans les manuels, moi je pense que la formation a un problème, la formation, l'enseignement est malade. Et donc, on doit quand même essayer de revenir sur ces projets-là pour pouvoir remplir toutes les clauses possibles.
Oui, et là, vous avez raison, maître Eko, vous avez raison. Comme le manuel est distribué, et alors qu'il y a des enfants qui continuent à être reçus dans les écoles, alors autant mieux que le gouvernement, ses partenaires, mais aussi les producteurs locaux, se consacrent à la production de ces manuels, à leur distribution, pour permettre à ce que tous les enfants puissent étudier de la même manière. Merci beaucoup, maître Likosa, 081-890-75. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capitale propose la tribune de la presse. Analyse, explication et débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapitale.net.
Alex Ebongi, vous êtes préfet des études et président des écrivains de manuels scolaires du Congo. Nous sommes avec vous dans ce studio. Vous avez suivi les uns et les autres des pistes de solutions, des inquiétudes. Au-delà de tout, on peut aussi ajouter la problématique des bibliothèques aujourd'hui dans nos écoles qui parlent manuel, parlent bibliothèque. Alors, mais le constat réel aujourd'hui, vous l'avez déjà présenté, vous avez dressé les tableaux. Mais y a-t-il aujourd'hui des discussions entre vous, les écrivains de manuels scolaires, le pouvoir public, d'autres partenaires de la RDC dans les systèmes éducatifs aujourd'hui pour pouvoir comment assister et améliorer ces domaines de manière scolaire?
Nous avons entrepris les démarches au ministère. D'abord, nous avons contacté les services de la direction des programmes et matériels didactiques. Ils ont aligné effectivement nos manuels, disant que le gouvernement pourrait financer les manuels. Aujourd'hui, ça fait 2 ans, on n'a pas produit les manuels et nous sommes perplexes, nous ne savons pas qu'est-ce que nous devons faire. Et nous avons demandé que ceux qui financent les manuels importés, au lieu d'aller verser de l'argent à l'étranger, ils peuvent verser l'argent ici sur place et que chaque élève, et ça coûterait moins cher, et chaque élève pouvait avoir son livre avec lui. C'est comme disent les auditeurs là-bas. Quand le papa n'est pas bien payé, vous attendez quoi de l'élève? Rien du tout. Donc, l'élève ne peut acheter le livre qu'à travers son père. Quand son père n'est pas bien payé, il ne pourra pas acheter. Même si vous mettez le livre à 1000 francs, l'élève ne pourra pas acheter. C'est pourquoi nous avons demandé Nous demandons, nous continuons à demander aux organismes internationaux, au gouvernement, s'ils peuvent financer les livres produits localement, et ça sera distribué, comme ça la chaîne de distribution est connue. Nous avons les imprimeurs qui sont ici, on les contraint de distribuer ça dans les fins fonds du pays. On peut travailler avec les coordinateurs. Mais ce qui est curieux, ce sont les mêmes personnes qui quittent Kinshasa, qui vont distribuer à l'intérieur, ils vont encore dans les fins fonds là-bas. Non, si ça passait par les coordinations, par exemple, chez les catholiques, bon, on a donné autant de livres. C'est à eux de faire le suivi. Les protestants, on vous a donné autant. Et s'il y a des plaintes à l'intérieur du pays, directement, on s'attaque à la coordination. Pourquoi les livres n'ont pas atteint les élèves de tel coin? À ce moment-là, il y a le suivi. Mais si ce sont les mêmes personnes qui quittent ici, à les distribuer à l'intérieur, c'est pourquoi on déplore, on trouve d'autres livres dans la rue, et pourtant, ça devait être dans des salles de classe ou dans le bureau. Alors, nous, on a encore demandé au ministère, dans nos statuts, pour que les fonds pour la promotion de l'éducation, je ne sais pas à quoi ça sert, s'il vous plaît, mon cher ami, ces fonds-là pouvaient nous aider chaque année à imprimer ne plus qu'un million d'exemplaires de livres. Et ces fonds-là, les livres même expédiés à l'intérieur du pays. À ce moment-là, on aura fait quelque chose, mais je ne sais pas à quoi faire.
On a une idée aujourd'hui des besoins réels en livres pour que ce soit les primaires, secondaires. On sait que les cours, c'est chaque cours en principe qu'il devait en avoir, mais on ça s'élève à combien? Le projet a concerné 14 millions de livres, mais le besoin peut être aujourd'hui estimé à combien?
En tout cas, c'est plus de 14 millions. Plus. Ça doit être dans des 30 ou 40 millions. Les écoles naissent aujourd'hui, mon cher ami, les écoles catholiques ne sont plus nombreuses. Ce sont les écoles privées qui sont là. Et aller dans ces écoles privées, quels livres ils ont? Ils n'ont presque rien, peut-être c'est les livres du professeur. C'est tout. Et si on mettait à la portée de tout le monde et que les livres coûtent moins cher, ça je vous dis, c'est l'unique pays où les livres coûtent trop cher. Les livres scolaires, s'il vous plaît. Vous allez trouver, par exemple, les Go for English, là. Pas moins de 20 dollars. C'est plus de 20 dollars. Et qui peut débourser 20 dollars ici pour acheter des piscalis si lui-même mange 1 dollar par jour? C'est pratiquement difficile. Donc, c'est pourquoi nous avons demandé un partenariat avec le ministère, avec l'UNICEF, avec l'UNESCO, pour qu'ils viennent. On voit comment on peut faire, comment on peut distribuer les livres à moins cher à tous les élèves, puisque c'est produit localement.
Et dans la production, le travail que font aujourd'hui les écrivains des manuels scolaires, est-ce que c'est un groupe restreint ou bien il y a beaucoup de gens qui sont aussi attirés dans ce domaine? Il y a des types d'élimination aujourd'hui, à part vous, votre association, s'il y a d'autres personnes qui désirent aujourd'hui, qui ont le souci de pouvoir intégrer l'association et qui écrivent des manuels scolaires, ou bien c'est quelque chose qui peut-être que les gens forcément quand nous allons dans le débat comme ça, mais pourtant on ne s'intéresse pas à ça aujourd'hui. Quelle est l'impression que vous avez sur ce travail?
Mon cher ami, dans les conditions actuelles de travail, il vous est difficile que quelqu'un puisse consacrer son temps à réfléchir, à écrire, à faire ceci. Il y en a qui ont écrit mais dont les manuscrits traînent encore dans leur tiroir. À l'intérieur des pays, nous ne savons pas quantifier quels sont les écrivains qui sont à Lubumbashi, à Kananga, à Bandundu. Nous ne les connaissons pas. Mais nous avons commencé avec les écrivains sur place ici à Kinshasa. Nous avons les écrivains des mathématiques que nous connaissons, qui sont ici dans notre association. Nous avons Mbala et Kayembe, et ils ont produit dans Loyola. Nous avons les l'histoire. Nous avons Lissongo et Lupamani qui sont dans l'histoire. Nous avons, moi je suis dans l'anglais. Il y a Madame Mpese qui est dans le domaine de l'éducation physique, s'il vous plaît, mon père. Mais les gens croient que l'éducation physique, c'est seulement faire à gauche, à droite, demi-tour à gauche, demi-tour à droite. Non, c'est vraiment un cours scientifique. Quand vous allez à l'IPEN, il y a une section, nous on appelait ça section ou option aujourd'hui, c'est l'université, il y a une section qu'on appelle éducation physique. Et là, on apprend réellement comment l'enfant peut se développer. Et si on ne tient pas compte de l'éducation physique, il y a des jeunes gens aujourd'hui qui gagnent leur vie
puisqu'ils ont bien fait l'éducation physique.
Mais quand vous dites, en vous inquiétant sur les écrivains, peut-être que nombreux, on ne les connaît pas, ce qui veut dire aussi qu'on a des problèmes de contrôle des qualités des fois d'autres livres qui sont dans les écoles, parce qu'il y a aussi des écoles privées, qu'on se les dise, qui ont pu adapter des livres selon leur modèle à eux, selon leurs besoins à eux. Mais est-ce qu'à ce niveau, on peut avoir un standard de connaissances où un enfant qui est dans une telle école privée, il a un livre édité par cette école avec ses textes à eux, les termes utilisés. C'est ça aussi les dangers qui guettent les élèves dans ces domaines de manuels scolaires.
Bon, la loi cadre est claire. L'autorité habilitée à distribuer les manuels, c'est le ministère, à travers la direction des programmes et matériels didactiques. Quiconque utilisait un autre livre qui n'est pas agréé, il est en train d'assassiner les enfants congolais. Vous prenez par exemple, mon cher ami, aujourd'hui, nous devons être compétitifs au niveau international. Nos enfants qui ne suivent pas les cours d'anglais, par exemple, comme ça se fait ici, comme le programme national a élaboré, aura des difficultés quand il va aller ailleurs, puisque les standards que nous avons, c'est le ministère qui nous donne les livres qu'il faut utiliser. Tous ceux qui utilisent des livres qui ne sont pas autorisés par le ministère, ce sont des bévues qui sont en train de commettre. Donc, nos enfants aujourd'hui, mon cher ami, nous devons les initier au cours d'anglais, puisqu'aujourd'hui, pour attraper l'emploi, il faut connaître l'informatique, il faut connaître l'anglais.
Oui.
Et le gouvernement devait percevoir tout ça. Si l'anglais est relégué à l'arrière-plan, nos enfants ne seront pas compétitifs au niveau international.
Voilà, Eric Talikassi, Michel Amatali, Gabriel à Kinshasa, mais de la manière dont les livres sont vendus aujourd'hui sur l'avenir du commerce ici à Kinshasa, partout, où au mois de septembre, on voit comment les parents se ruent vers ces étalages pour acheter des livres. Il reste à savoir, quand on achète un livre de mathématiques 5e, quel est le livre que le ministère veut qu'il soit à l'école? Vous verrez autant de livres de mathématiques, autant des livres de français qui se vendent sur la route, et puis les parents vont acheter. Faudrait-il aussi connaître quel est le vrai livre qui doit être utilisé à l'école? 081-890-7315.
Parole aux auditeurs.
Eric, vous êtes à l'ICACI. Bonjour, Eric.
Bonjour, Radio Capi. C'est Kabon Eric de l'ICACI. Nous savons que quel livre, que soit littéraire, soit vraiment étranger, pour qu'il puisse découvrir les besoins géopolitiques, sociaux et culturels. Si la problématique est sur les productions que notre ministère fait de l'engagement, je vais parler, j'ai compris les cas de livres de nom au gré des vagues de auteurs français, précis de grammaire, parlons français, si nous pouvons parler de cela. D'autres productions sont féminines, les autres sont réutilisées. Là que nous pouvons, que pour mon humble avis, j'ai demandé au ministre, au gouvernement, lors de planification du budget de réforme, qu'ils puissent donner quels sont les livres qui seront adaptés dans l'enseignement. Et vraiment, si nous avons beaucoup de traducteurs littéraires qui parlent, mais certains livres qu'on veut ne sont pas vraiment utilisés dans l'enseignement, pourquoi pas nous en les utiliser? Nous devons valoriser notre production. Vraiment, nous encourageons l'idée du ministre. Alors, pour cela, imaginez qu'un livre qui coûte 5 000 francs. Or, les familles congolaises qui en consomment, qui sont pauvres, comment y parvenir maintenant à créer? Là, vraiment, il faut insister que même le ministère de l'enseignement puisse prévoir quel est le document qui sera créé dans l'enseignement, à quel degré, mais quand nous serons maintenant favorisés et valoriser les degrés de l'enseignement. Voilà maintenant, monsieur Gilles, ma contribution sur notre échange.
Merci beaucoup, Eric. C'est important ce que vous avez dit. Quand on regarde aujourd'hui les coûts des livres au marché, il faut qu'on se les dise quand même ici à Kinshasa. C'est pas donné à n'importe qui de pouvoir aller au marché et de s'acheter un livre de mathématiques 5e aujourd'hui, que ce soit dans des librairies que nous voyons ici dans la capitale ou même les livres qui sont vendus. Les livres qui sont étalés dans les coins de rue, c'est pas facile aujourd'hui. Mais vous estimez que si le ministère peut avoir un budget consacré à la production des manuels scolaires, on peut facilement encourager la production locale et permettre à ce que les livres soient disponibles dans les écoles à moindre frais. Merci beaucoup, Eric. Michel, vous êtes à Matadi dans le Congo central. Bonjour, Michel.
Oui, bonjour, monsieur Gir.
On vous écoute, monsieur.
Moi, je pense que bon, toutes les réformes entreprises sont à saluer. Mais des grands problèmes. Vous savez, parce que parfois, nous n'avons pas l'habitude de voyager. Si vous essayez de quitter le Congo pour aller dans d'autres pays, vous allez vous rendre compte que notre éducation n'est pas morte. Mais elle est malade. Et cette maladie-là, le conduit à la mort, c'est seulement les cœurs qui battent et l'éducation est déjà morte. Pourquoi je l'ai dit? Prenons l'exemple, par exemple, du Rwanda. Vous savez, lors du Sang, on nous a parlé du documentaire sur le Rwanda. Le Rwanda a eu une réforme. Il est sorti de la zone française pour la zone anglaise. Ça a pris combien de temps? Aujourd'hui, lorsqu'on parlait du Rwanda, on disait tiers 100%. Aujourd'hui, 98% déjà des Rwandais parlent l'anglais. Et 97% des Rwandais dans les écoles publiques, chacun, de l'école maternelle jusqu'à l'école secondaire, chacun a déjà son ordinateur. Si nous, à ce niveau, nous commençons déjà à parler des manuels, pendant que dans notre pays, tout maintenant est informatisé. Vous savez, la grande maladie du Congo, parce que nous avons déjà mis dans nos cœurs cette phrase, le Congo est vaste. Ça, c'est une grande maladie. Pourquoi? Parce que cette phrase-là, le Congo est vaste, c'est presque dans tous les domaines. Donc, tout ce que nous pouvons produire, tout ce que nous pouvons faire, ne peut pas suffire pour tout le monde. C'est ça le problème. Allez en Angola. Vous savez combien de temps l'Angola a été en guerre? C'est beaucoup de temps. Aujourd'hui, tous ces professeurs qui utilisent l'Angola, qui sont nos jeunes cadres, nos professeurs ici. J'ai connu un des amis avec qui nous avons étudié. Aujourd'hui, il est en Angola, la fin là. Il a d'abord enseigné ici. Écoutez ce qu'il m'a dit. Mon frère, je regrette tous les temps que j'ai à passer à enseigner au Congo. Aujourd'hui, un élève angolais, dès qu'il se présente à l'école, à la rentrée scolaire, il y trouve tout dans son école. Les sacs, les cahiers, les manuels, tout. L'État a bénéficié à partir des minéraux qu'on paye et l'élève aussi a des documents. Mais pour vous, parce que nous n'encourageons pas l'initiative privée. Mm-hmm. L'invité vous a dit, les livres que nous utilisons, ça vient de la Belgique. Et regardez ça, Manuel, allez entrer dans des bureaux, des chefs d'établissement. Vous allez voir tous ces livres pleins. On ne l'utilise même pas. Parce que les programmes qui se trouveraient dans ces livres ne coïncident même pas avec le niveau intellectuel de nos enfants. Or, à l'époque, nous avons lu des gens comme Zamenga et Zaboto, lorsque vous lisez ce qu'ils ont écrit, ça vous donne l'envie, la joie de lire. Mais maintenant, nous n'encourageons personne. Les gens sont mal payés, et moi je ne paye pas comme le disait l'ami. Quel est ce papa qui peut sortir ses 1000 francs pour aller acheter un livre de son enfant? Je ne vois pas. Donc ce qui veut dire, lorsque nous disons à notre État, payez bien les gens, ce n'est pas une manière de vous acquitter, mais c'est pour vous encourager aussi vous. Payez bien les gens. Si vous payez bien les gens, ça va résoudre beaucoup de problèmes.
Beaucoup de questions. Alors, et ce que vous avez dit, Michel, c'est important. Vous estimez d'abord, quand les parents ont assez de moyens, ils peuvent payer les frais, et de ces frais, l'État peut rendre disponible la production des manuels, et quand l'enfant qui vient payer le prêt à l'école vient l'année prochaine, il trouve à sa disposition à l'école les livres dans les différents domaines. C'est comme ça qu'on doit renforcer la formation des enfants. Tout ça, ça doit être dans une synergie. Les parents payent, l'État peut imprimer des manuels, tout comme il peut les importer, mais pourvu que les manuels soient adaptés au niveau et aux réalités de notre éducation. Et c'est de cette façon qu'on peut aller dans ces partenariats, et c'est votre exhortation envers le pouvoir public. Merci beaucoup, Michel, de nous avoir appelé de Matadi. Gabriel, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Et bonjour, JR, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, Gabriel.
Oui, quant à sur les prédécesseurs en rapport avec ce sujet, c'est un sujet très important. Maintenant, qui suscite le fait que les gouvernements, à travers les ministres de l'éducation, puissent maintenant prendre, peut-être en mesure, de bien voir qu'est-ce qu'ils doivent faire à la longue. Il est vrai que nous, personnellement, nous avions étudié à l'intérieur. Mais, jadis, les ouvrages provenaient de l'étranger et tout le monde était en possibilité d'avoir un ouvrage, lire et puis bien méditer par rapport à ce qu'enseigne l'enseignant. au niveau primaire, voire même au niveau secondaire. Mais aujourd'hui, pendant qu'il y a maintenant des producteurs sur le terrain, peut-être l'État allait faire maintenant rassembler tous ces gens qui sont en train d'écrire, non seulement ici à Kinshasa, mais dans différentes provinces, les rassembler et puis les prendre en charge, même les propos où ils sont en train d'imprimer. Prendre tous ces gens-là en charge, en fait qu'ils puissent bien produire et bien distribuer, même dans les fonds forts du pays. Non seulement dans ce sens-là, mais également, l'État également doit connaître l'état, l'effectif des élèves dans toute la République, dans l'école publique, surtout parce que c'est à sa charge les écoles publiques, non privées, parce que dans les privés, nous voyons que même dans les réseaux catholiques, ils sont bien organisés. Parce que ce que nous parlons aujourd'hui dans les réseaux catholiques sont bien organisés, ils disponibilisent les ouvrages, et les enseignants sont bien payés, qu'on sort. Mais dans les milieux publics, il y a un problème très très sérieux. Alors, maintenant qu'il revient de prendre maintenant sa responsabilité et pouvoir bien distribuer les ouvrages compte tenu maintenant des effectifs des élèves ou qui sont dans l'intérieur ici au niveau de la capitale. Parce qu'on ne peut pas planifier peut-être autant d'ouvrages qu'il faut distribuer dans tous les coins du pays sans connaître l'effectif de tous ces élèves-là.
Et c'est ce travail qui doit être fait. Vous souhaitez, Gabriel, qu'on puisse faire une étude, je crois bien au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la citoyenneté. C'est parmi les ministères qui ont des données très élaborées et très chiffrées. On doit savoir, nous avons quel besoin réellement aujourd'hui, en combien de millions de livres, que ce soit pour le français, la mathématique, la géographie, l'histoire, l'anglais, la physique, la chimie et la biologie, autant de cours, exprimer ces besoins, voir maintenant comment doter les écrivains, les imprimeurs des moyens pour pouvoir écrire, imprimer des livres qui doivent être distribués presque partout. Mais rappelons quand même que la distribution des manuels scolaires, parce que vous avez évoqué, tout le monde est revenu encore sur la nostalgie de ces anciens temps où on pouvait avoir des livres partout, faudrait-il encore dire que c'était dans ces termes de partenariat, des écoles catholiques, la coopération avec la Belgique, on pouvait facilement. Mais l'inquiétude, c'est aussi voir que les mêmes partenariats continuent aujourd'hui entre le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, mais avec d'autres partenaires comme l'UNICEF, l'UNESCO, il y a la Banque mondiale qui a financé plutôt ce programme de manuel, il y a la coopération technique belge. Vous souhaitez encore voir que cela puisse s'élargir, surtout en termes de ces manuels qui doivent être vraiment disponibles dans nos écoles pour aider les enfants à être mieux formés. Merci beaucoup, Gabriel. Joseph, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Thierry Lamégi. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Capi.
Non, vous écoutez, Joseph.
En fait, Thierry, je voulais d'abord rassurer les autres. Le Congo, beaucoup de gens font des fois juste, je veux dire quoi, ils sont complexés. Ils sont complexés. J'ai des amis qui ont étudié à Lubumbashi, qui sont partis à l'étranger, en Zambie, en Afrique du Sud, j'en pense plutôt. Ce sont des meilleurs médecins. Donc, dire au Congo que l'enseignement est mort, ça c'est du mensonge. Mais la plupart du temps, c'est des livres. Parfois, lorsque nous intervenons, nous avons l'impression que nous avons fait des études. Non, nous, on a étudié au village. Et au village, l'enseignement ne disposait qu'un seul livre. Et c'est ce livre-là que l'enseignement utilisait. Et il arrivait à aider les jeunes. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes déjà dans la vie courante, dans la vie pratique. Mais nous nous oublions également parce que nous avons eu de bonnes bases depuis l'école secondaire jusqu'au secondaire. Mais le problème aujourd'hui, quand on peut publier des livres, on n'est pas les publier, tant qu'un enseignant devant lui, il sera fait en état de même que l'enseignant est incapable d'enseigner. On peut avoir tout à lire, mais l'enseignant ne peut pas savoir si dans la classe,
Et dommage, Joseph, il y a des petits soucis là de ligne avec vous à Lubumbashi. Dommage que ça crache, mais on a quand même suivi. Vous avez dit, et là vous avez, je crois bien, répondu à Michel Dematadi qui parlait de notre éducation qui est malade, qui risque de mourir parce que il n'y a pas une prise de conscience, c'est ce que vous avez dit, mais vous, vous estimez que non, il n'a pas raison de le dire. L'enseignement aujourd'hui au Congo répond aux besoins parce que vous avez des amis qui ont été formés à Lubumbashi, qui sont en Zambie, en Afrique, partout ailleurs, qui sont de meilleurs médecins. Et le problème de livres, vous l'avez dit, hein, il y a des villages là où vous avez été, il n'y a qu'un seul livre que l'enseignant pouvait posséder. Mais le problème, c'est la motivation, parce que vous estimez quand bien même l'enseignant, on pourrait donner les livres aux enfants, et que l'enseignant n'a pas assez de motivation pour pouvoir faire son travail comme il faut, les livres ne pourront pas servir l'enfant pour qu'il soit mieux formé si l'enseignant lui-même n'est pas motivé. Mais dommage qu'on a eu des soucis hein, sur la ligne avec vous à partir des Lubumbashi. Merci Joseph de nous avoir rejoint dans cet échange. Rocky, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour aussi à l'invité.
Vous êtes au Bandundu et les débats, vous l'avez suivi, les soucis aujourd'hui, c'est de voir que ce soit le gouvernement avec ses partenaires et surtout venir aussi en aide, hein, soutenir les écrivains locaux pour pouvoir avoir autant de manuels qui peuvent être distribués dans les écoles et permettre à ce que les enfants soient formés comme il faut. Et en 45 secondes, Rocky, votre point de vue pour cet échange.
Oui, merci Pierrot. Moi, j'espère bien que le Congo a un problème d'une bonne politique à l'éducation. S'il y a des écrivains locaux qui ne sont plus pris en compte, bon, dites-moi, les Made in Congo qu'on nous décrit chaque jour, Made in Congo, Made in Congo, comment est-ce que ces Made in Congo peuvent être mis en considération? Je peux prendre un exemple d'un médecin, chercheur, professeur congolais, qui avait même inventé un produit qu'on appelle Meyamicine. Ce monsieur-là est décédé, le gouvernement ne lui a même pas donné un prix de mérite. Donc ce monsieur-là a fabriqué ce produit-là que nous utilisons jusqu'aujourd'hui. Si le gouvernement ne sait pas prendre les écoles qui sont présentes dans les provinces parties par là en compte, les 1000 écoles que le gouvernement est en train de construire, comment est-ce que ces élèves-là seront pris en charge? Là, c'est ce que j'avais à dire. Hein.
Merci. C'est important ce que vous avez dit, Rocky, en évoquant cette campagne lancée par le ministre de l'Industrie consommant congolais, Made in Congo. Il faut encourager la production locale. C'est aussi ça, mettre des moyens pour que les livres soient produits localement, les manuels scolaires qui sont produits dans les langages compréhensifs hein, et par les écrivains congolais. Il faut aussi soutenir les Made in Congo en termes de manuels scolaires. Merci pour cette interpellation. Je vais terminer avec vous, Paty Bernard. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Radio Capi. Par rapport au sujet alléchant, j'aimerais rapidement dire une chose, c'est que actuellement, l'on parle de plus en plus d'approche socio-constructiviste. L'approche qui veut que le savoir ou la connaissance soit acquis, le savoir soit acquis par l'élève lui-même, et non pas que ce soit dans un système de mode transmissif, tout simplement. Ce qui veut dire que les manuels seront vraiment d'une grande valeur. Et si vraiment l'organisation est mise sur pied, en sorte que la politique des manuels n'est pas prise.
Dommage, Paty Bernard, l'intervention de Thierry. Mais ce que vous avez dit, c'est important dans cette approche où l'élève doit être au centre de l'apprentissage. C'est pas seulement l'enseignant qui se met en train de bourrer, si on peut dire ainsi, le cerveau de l'élève. Mais là, si l'élève n'a pas de manuel, ce sera difficile qu'il soit au centre de l'éducation. Il doit apprendre, il doit d'ailleurs même proposer à son enseignant. Et dans ces cas, il faut vraiment privilégier la production des manuels. Merci aux uns et aux autres. On revient à vous, notre invité Alex Aïbongi. Vous avez suivi les uns et les autres. On pense que ce n'est pas la dernière émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette émission?
Vraiment, je suis très heureux. Vous voyez que les amis n'ont fait que nous encourager dans ce que nous sommes en train de faire. Pour cette émission, je préfère que l'on puisse organiser d'autres émissions et au besoin, être en face de bailleurs de fonds pour qu'on explique réellement notre souci, le souci de l'association qui veut que les livres puissent atteindre les Congolais les plus pauvres. C'est-à-dire que nous sommes prêts, nous, à notre niveau, de sacrifier même les bénéfices que nous pouvons avoir pour que les livres coûtent même 500, 200 francs, pourvu que chaque élève soit en mesure de payer les livres.
Mmh.
Et en ce moment-là, nous aussi, écrivains, nous n'allons pas mourir pauvres, puisque partout, vous voyez, Zamenga est mort, vous trouvez d'autres écrivains sont morts, mais ils sont restés pauvres jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi, si jamais l'argent qu'on est en train d'investir, c'était les livres à l'extérieur, on pouvait les donner aux Congolais. Nous pouvons nous-mêmes, même avoir l'imprimerie. Par exemple, si le gouvernement dit, bon, vous avez des livres, nous avons l'imprimerie, bon voilà, baissez les taux de tout ceci, nous baissons les prix et on fabrique les livres sur place à un prix hors concurrence.
Mais les livres que vous, quelques livres que vous produisez, comme ces, de ces cours d'anglais, la mathématique et les autres, c'est à peine quelques écoles qui ont ces livres, je crois bien.
Oui, il n'y a que les écoles de Kinshasa.
Mais alors là, il y a un problème qui se pose au niveau de la formation. Si les livres qui sont produits localement, ils peuvent être à Kinshasa, pas dans toutes les écoles, bien sûr,
oui.
Et qu'en province, on a d'autres livres, c'est ça aussi. C'est ceci que les auditeurs ont présenté sur la disparité en termes de formation rapidement.
Oui, ben, nous devons tenir compte des innovations.
Mm-hmm.
La mathématique n'est pas cette mathématique qu'on voyait dans les temps. Nous avons pris mathématiques modernes.
Mm-hmm.
Mais aujourd'hui, on a adapté la mathématique moderne, on y a ajouté l'informatique, mm-hmm. et on a ajouté beaucoup de choses. C'est pourquoi nous pensons que si le gouvernement peut nous aider à publier beaucoup de livres, ça s'appelle
Merci. Merci. Merci beaucoup, Alex Ibongi. Vous êtes préfet des études et président des écrivains des manuels scolaires du Congo. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. J.R. Lungembo était à la réalisation et coordination. Julie Pézabongonda à la gestion du standard. Eritis Yatala était à la mise en onde des bureaux. Et la mise a eu le plaisir de vous présenter cette émission que vous allez retrouver sur www.radiocapi.net. Merci à Martin Sebujavou qui était à la supervision. Et surtout, bon week-end en compagnie de Radio Capi. Au revoir.